Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Résignons-nous.
Carte blanche.
C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Stéphane, bonjour.
Salut Philippe Vincent, comment vas-tu?
Ça va, ça va. Tu me parlais de débat des chefs avec la question « loadé comme un gun », comme dirait avec la pointe de la modératrice à Yves-François Blanchet.
« Loadé comme un gun », en effet. Puis, je pense que je vais faire l'inverse ce matin de ce qu'on enseigne dans les écoles de journalisme. Je vais te donner mon lead, ma manchette à la fin.
Oh.
Je vais vraiment enterrer le lead et commencer par un long détour, revenir sur une histoire dont tu as probablement un peu parlé mardi. J'intuitionne peut-être avec Mario Dumont. Je pense pas que le détour va être plate pour autant. Donc, on est à la remorque d'une nouvelle que vous connaissez. Mardi, le Conseil de presse du Québec a rendu une décision suite à une plainte qui avait été formulée contre Shashi Curl, la patronne d'Angus Reid, qui animait le débat des chefs. C'était le 9 septembre 2021 lors des élections fédérales. Jusqu'à maintenant, tout va. On se suit toujours.
Oui.
La question de l'animatrice s'adressait, tu l'as bien dit, à Yves-François Blanchet, disait en substance, vous qui défendez d'être raciste, vous appuyez les lois 96 et 21 qui marginalisent les minorités religieuses anglophones et allophones au Québec. Donc, on se retrouvait, toi qui parlais d'une question loadée comme un gun, dans l'éternel, le Québec, mutatis mutandis, c'est la Rhodésie du Canada, vous êtes tous plus ou moins racistes. La question posée, très probablement, c'est important dans le contexte, avec l'accord des équipes éditoriales de tous les réseaux présents dans ce qu'on appelle le consortium, avait beaucoup fait réagir, on s'en souvient. Je pense qu'il y avait une motion qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale pour dénoncer cette forme de Québec bashing. Donc, le Conseil de presse, mardi ou lundi dans sa décision, estimait que la question était biaisée. Un jugement qui est donc pas favorable à la CBC ou aux autres réseaux, mais qui n'est pas non plus, on s'entend, accablant. C'est important pour comprendre la suite que les décisions qui sont rendues par le Conseil sont sans véritable conséquence. Il n'y a pas d'amende ou de sanction contre la personne ou l'institution qui est montrée du doigt, sinon que le média fautif doit toujours publier le jugement. C'est une manière de reconnaître que l'entreprise de presse s'est trompée. C'est la seule punition. C'est important. Il y a une espèce de transparence. Alors hier, le consortium a répondu qu'il demeurait solidaire de leur animatrice, que la question a donné la chance à M. Blanchet d'exprimer son point de vue. Ça devient intéressant quand le porte-parole de la CBC, la Canadian Broadcasting Corporation, M. Thompson, estime que son organisation appuie le droit des animateurs de poser des questions difficiles. Alors là, je me dis, même si elles sont jugées biaisées par un organisme indépendant, et est-ce que les questions biaisées pourraient être offensantes? C'est là que ça devient intéressant. À sa face même, oui.
C'était pas Justin Trudeau qui disait, que la liberté d'expression avait des limites, là, où ceux et celles qui pouvaient être offensés le recevaient.
Mais bon. Il se trouve que l'organisation dont on parle, Radio-Canada et CBC, puis je fais très attention parce qu'on pourrait penser que j'ai des comptes à régler, peut-être toi aussi, puisque tu as déjà travaillé à Radio-Canada ou à CBC. Or, ce n'est pas du tout le cas. J'y ai passé des années heureuses, parfois difficiles, mais j'ai toujours été très bien traité. J'ai vraiment aucun compte à régler, sinon qu'il y a des questions de principe qui nous interpellent tous comme citoyens. Et en face d'une organisation qui occupe de l'espace et qui, historiquement, a un rôle essentiel à jouer dans l'écosystème des médias. Tu soulevais les interrogations du premier ministre Trudeau. Je rappelle que Radio-Canada ou CBC, c'est la même organisation qui demande depuis quelques jours à tous ses animateurs de stopper, d'interrompre des invités quand ils tiendraient des propos que les animateurs pourraient juger offensants pour leur auditoire. Et donc, de les stopper et de s'excuser en leur nom, au nom de ceux qui auraient tenu ces propos auprès de l'auditoire. Est-ce que la logique ne s'applique pas donc aux animateurs quand ils posent leurs questions qui pourraient être offensantes? Est-ce que, puis j'ai pas de solution de réponse, mais est-ce que les invités devront interrompre le personnel de la CBC ou de Radio-Canada pour s'excuser auprès de l'auditoire? Est-ce que Blanchet, donc, aurait pu ou dû mettre en garde les téléspectateurs du Canada anglais que l'animatrice venait de vexer, potentiellement, de blesser des millions de Québécois en direct à la télévision.
Mais c'est parce que selon eux, c'est pas vexatoire, dans la mesure où CBC et Radio-Canada reconnaît qu'il y a du racisme systémique, reconnaît que la société est raciste, reconnaît, je veux dire, à un moment donné, pour eux, c'est un fait, là. C'est pas chargé alors que ça l'est, alors qu'il y a un débat de société, qu'il y a un débat politique au Québec. Mais dans le Canada anglais, ce débat-là n'existe pas. T'sais, elle aurait pu dire, vous essayez de briser le Canada, vous êtes mauvais à cause de ça. Puis au Canada anglais, on aurait applaudi en disant que c'est extraordinaire, là.
Alors, effectivement, on est dans une logique binaire où il y a deux visions du monde qui s'affrontent. Et ça compte pas. Ce n'est pas vexatoire. Le CRTC, je le rappelle quand même, tu en as certainement parlé, a remis à l'ordre et sévèrement blâmé mes anciens collègues au 15-18 où je faisais de façon régulière une chronique sur la politique américaine pour une chronique pendant laquelle Simon Jodoin, si ma mémoire est bonne, a simplement nommé à plus d'une reprise le titre du livre de Pierre Vallière, hein, Nègre blanc d'Amérique. Radio-Canada s'est excusé auprès du plaignant, a décidé de changer, après être allé en appel auprès du CRTC, a quand même décidé de changer ses pratiques radicalement pour ne pas offenser, blesser des auditeurs. Il est désormais interdit de prononcer, évidemment, le mot N, le mot noir, même hors d'onde, je pense, maintenant, même dans une réunion éditoriale, sous peine de sanctions graves. Le comité à Radio-Canada a même été formé pour...
Mais il y a une animatrice qui a perdu son travail. Il y a une animatrice qui a perdu sa job là, à CBC.
Exact. Wendy Mesley, qui en réunion a simplement, d'ailleurs, je pense, cité Vallière. Fait que si tu veux survivre, oublie même le nom de l'auteur quand tu travailles à Radio-Canada ou à CBC. Il y a un comité qui a été formé, ou il y a une velléité de former un comité, d'ailleurs avec des journalistes, des collègues, pour faire l'inventaire des mots qu'il faudrait mettre à l'index, qui peuvent offenser. Puis cette espèce d'aplaventrisme, c'est comme ça que ça a été perçu de l'organisation devant le CRTC, a été dénoncé, c'est pour moi qu'il dit, par plusieurs anciens journalistes, des cadres, d'ex-cadres de Radio-Canada, des gens qui ont beaucoup de crédibilité, ils l'ont fait publiquement. À l'interne, il y a plusieurs anciens camarades, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi j'ai des conversations qui sont totalement exaspérées par cette nouvelle censure ordinaire, une censure que dénonçait d'ailleurs Lucien Bouchard à mon émission vendredi dernier. Lui faisait le parallèle entre le clergé des années 40-50 et ce qui se passe, sans nommer directement Radio-Canada, mais on comprenait de quoi il s'agissait. Moi, je préfère peut-être le parallèle avec les petits gardes rouges lors de la révolution culturelle en Chine. Il y a une source avec qui je parlais, puis j'ai une source, quelqu'un que je connais et qui a des responsabilités importantes, avec qui je parlais hier, justement, sur cette affaire-là, qui me disait, c'est une ambiance un peu pétainiste, je pèse mes mots, ce sont pas les miens d'ailleurs, une ambiance de collaboration, il y a des collègues qui se taisent, et certains même se réjouissent de prendre l'appartement du voisin, si on fait de la métaphore, et on revient à l'époque pétainiste, donc qui se réjouissent de ce que certains devront plier devant les nouveaux dictats, puis il y aura des places à prendre. Alors, c'est très sérieux. C'est pas grave, ce l'est. Alors, je t'ai dit un peu plus tôt que la seule sanction avec les décisions du Conseil de presse, c'est que les organisations membres s'engagent à les publier. Bref, d'informer leur public du jugement qui a été rendu. Alors, voici mon lead, le punch dont je te parlais tout à l'heure. Monsieur Thompson de la CBC, que j'ai plutôt cité, a déclaré qu'il n'allait pas, pluriel, il n'allait pas à la CBC publier ce blâme, qui on s'entend est assez léger, parce qu'ils contestent la validité du jugement, ne regrettent pas leurs questions, et disent aussi parce qu'ils sont pas membres du Conseil de presse. Mais ici, Radio-Canada en est membre. On parle de la même organisation. La SRC, plusieurs autres organisations qui adhèrent au Conseil ont souvent souligné que Québécois se défilait en refusant d'adhérer à l'organisation. En fait, je pense que Québécois a quitté l'organisation il y a quelques années. Mm-hmm. Alors, je laisse le soin à Québécois d'expliquer ses choix. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire la morale aux autres si on n'applique pas soi-même les règles? C'est une question que je me pose, elle me semble importante. La notion des propos offensants, du racisme larvé, parce que c'est un peu de ça qu'on parle, hein? Est-ce que ça serait donc à géométrie variable? Est-ce que ça se joue à la tête du client? Dire donc des Québécois blancs, francophones, c'est ce que tu semblais avoir.
Non, mais ça, à CBC, c'est comme ça, là, je veux dire. Puis
ah oui, c'est
à Ottawa, c'est comme ça aussi. Là.
Tu dis qu'ils sont frontières racistes, c'est compatible avec les impératifs du journalisme rigoureux pratiqué à la CBC. Parce que c'est de ça qu'on parle. Tu peux soulever ce potentiel racisme, et c'est parfaitement conforme aux meilleures exigences du métier du journalisme tel qu'il est pratiqué. L'offense potentielle, puis en fait elle n'est pas potentielle parce qu'elle s'est avérée, il y a des gens qui ont été vexés auprès de ceux qui se sentaient visés, n'a pas à être considérée, c'est inutile, non avenu. Mais attention, si tu es lié de Vallière, c'est pas la même chose. Là, soudainement, l'usage du mot offensant mérite la censure. Alors, quant à moi, on n'est pas dans le monde à l'envers dans un cas comme celui-là. On est vraiment entré chez les fous. Ça n'a pas de sens.
Mais après ça, le mot à haine, tu sais, le mot à haine, mettons, le peu, et moi, j'ai parlé à des gens de la communauté noire qui me disent l'entendre fait mal. Puis si tu peux l'éviter, évite-le, s'il vous plaît.
Mais on est parfaitement d'accord. La question, c'est ce mot cache maintenant plusieurs mots qu'on voudra faire disparaître parce qu'il pourrait être offensant. Et revenons à deux choses. C'est-à-dire que CBC et le consortium, quand ils sont montrés du doigt parce que leur pratique serait vexatoire, refusent de publier le jugement du conseil de presse au nom de ce qu'ils ne sont pas membres, alors que leur partenaire est la même entreprise, Radio-Canada, en est membre, qu'ils ne se gênent pas pour faire la morale à ceux qui choisissent de ne pas être partie du conseil de presse, et plus encore, acceptent que l'indignation ou l'offense est à géométrie variable, c'est-à-dire selon les publics. Alors, il y a des mots qui méritent d'être éliminés parce qu'ils peuvent créer... Alors, tu me dis, j'ai parlé avec des amis, même chose pour moi, j'admets que pour certains, ça puisse être offensant, mais encore une fois, le caractère offensant dans le code criminel, ça n'existe pas. Est-ce que c'est criminel? Probablement pas. Est-ce qu'on peut faire attention? Certainement. Est-ce qu'on ne doit plus nommer certaines choses? J'en sais rien. En fait, j'en sais quelque chose. Je pense que c'est toujours une erreur de ne pas nommer les choses. Est-ce qu'on peut éviter de choquer inutilement? Absolument. Est-ce qu'on peut accepter qu'il y a des choses qui peuvent choquer pour certains et que pour d'autres, ça ne doit pas choquer parce que l'affaire est entendue. Donc, tu as une partie importante de la population ici qui serait implicitement raciste.
C'était un problème de racisme au Québec. Le Québec a un problème de racisme. Est-ce que c'est le racisme avec les Autochtones? Puis tu sais, le débat sur le racisme systémique, on l'a eu, là. Puis les gens savent à peu près où je loge, puis on s'entend pas tous là-dessus, puis c'est tant mieux. Mais il y a un débat encore politique. Moi, ce qui me fascine, c'est que ça soit perçu comme un fait. Mais c'est ça aussi, la nouvelle... Puis ça nous amène à ce débat-là qu'on a quand même depuis un petit moment sur le militantisme et le journalisme. Mais là, c'est plus les journalistes qui sont militants, c'est l'organisme de presse qui l'est, là.
Qui n'a plus une ligne éditoriale, qui a une ligne idéologique.
Oui. Quand on encourage les journalistes à aller manifester pour une journée de manifestation, la cause est peut-être noble, mais en même temps, est-ce que c'est ça notre rôle?
Ou après une journée de congé parce qu'il aurait été secoué après avoir appris qu'il y avait eu des charniers où on trouverait, où on pourrait trouver des centaines, sinon des milliers de corps d'enfants autochtones, puis on ferait effectivement une journée de répit pour les gens qui auraient été trop malmenés dans l'organisation. C'est extraordinaire d'avoir cette bienveillance. Est-ce qu'elle sera aussi offerte pour d'autres cas où les employés pourraient être malmenés? J'ai en mémoire un message qui avait été envoyé à tous par la direction et par la présidente Mme Tate au lendemain du jugement du policier Chauvin dans l'affaire, évidemment...
George Floyd, là, Derek Chauvin.
J'avais dit qu'elle a enflammé l'Amérique, George Floyd, où elle se félicitait du verdict de culpabilité d'une certaine façon, en disant, ben nous respirons tous mieux que le policier était. Alors, que de façon privée, on ait cette opinion, c'est absolument légitime, c'est normal. J'applaudis que tu puisses, dans ton Ford intérieur, avoir ce genre de réflexion. Est-ce que implicitement, je dis bien implicitement, tu ne laisses pas entendre que si ça avait été un autre verdict, il aurait été mauvais. Donc, il y a quelque chose de très pernicieux, et surtout quand ça vient du plus haut sommet de l'organisation.
Ouais.
Est-ce que c'est le bon message?
Mais je trouve ça dommage, moi, parce que ça occulte du travail journalistique qui est fait de façon souvent très solide. Mais comme on préfère utiliser les journalistes et la salle de presse pour en faire des quasiment des pantins politiques à la défense d'une cause, on mélange tout ça là-dedans. Et moi, le plus dommage, je trouve que c'est pour mes collègues journalistes de CBC qui font un extraordinaire travail, mais qu'ils sont totalement attachés. Et ça me fait craindre, Stéphane, que les arguments des conservateurs pour définancer la CBC prennent davantage qu'avant. Il y a comme une raison éditoriale même de leur dire arrêtez, vous êtes un organisme militant, vous n'êtes plus un organisme journalistique. Là.
La personne à qui je parlais hier me disait ça nous fait presque souhaiter l'élection des conservateurs.
Et boy!
en effet, boy, mais ce sont tes mots.
Et boy, c'est mes mots,
de
oui.
Des pantins. Non, excuse-moi, là, soyons clairs, là, je parle pas. Moi, je citais l'esprit de la conversation que j'ai eue hier, mais il y a quelques secondes, tu me disais. Les journalistes, une organisation aussi exceptionnelle que celle de la CBC ou de Radio-Canada, se retrouvent ou se retrouveraient à jouer le rôle de pantin.
Ouais, l'impression que ça donne. Ouais.
L'impression, c'est gravissime. Mm. Et il y a une question que j'imagine se posent tous ces gens-là, c'est justement comment protéger leur réputation. Comment faire en sorte que l'organisation journalistique qu'on a connue, l'excellence journalistique dont se targue Radio-Canada, peut être protégée dans un contexte comme celui-là? Et est-ce qu'il y a une responsabilité de la part de ceux qui œuvrent à bâtir de l'information?
En même temps, ils ont l'appui du CRTC. Le CRTC est très fort dans la mouvance aussi militante et... Et l'appui du CRTC là-dedans aide CBC en ce moment. Là.
Est-ce qu'il y a péril en la demeure?
Une bonne question. Ce moment, j'ai l'impression qu'on est quand même à une croisée des chemins. Puis qu'il va falloir avoir cette réflexion-là plus profonde sur l'avenir des médias. Parce que si CBC devient cet organe, je sais pas moi, quasiment à l'antipode de Fox, ça donne rien qu'on le finance de façon publique. Là.
Je te laisse cette conclusion et
mais non, tu peux être d'accord, tu peux être contre, dis-moi là.
J'espère que puéril, nous le demeurerons pas. C'est effectivement inquiétant et cette espèce de fierté à dire, c'était dans le National Post hier, non seulement on persiste et signe, mais il n'est pas question qu'on publie ce jugement ou cette sanction, c'est même pas une sanction, en fait, ce jugement du conseil de presse, parce que dans le fond, on méprise ce que vous pensez. Ça me laisse un peu bouche bée. Et c'est rare que j'ai l'indignation dans le tapis. C'est rare que ces questions, justement, de Canada versus Québec, où on chicane les uns les autres, me fassent grimper. Et là, bizarrement, ça a touché une corde. Et je suis surpris que personne ne s'en soit soucié. Que cette réponse faite par la bouche de leur canon dans le Post laisse tout le monde indifférent.
Mmh. Canada anglais versus Québec, des fois. Stéphane, bonne journée.
Ciao.
Salut.